Tout au début, maman se dit que Françoise était très bien, à cause des hauts talons, bien sûr, à cause aussi de l'aisance des gestes, de la voix basse et pourtant claire, d'une parfaite modestie. Il faut avoir beaucoup vécu, souffert, pour s'être fait une voix comme celle-là. Vous m'avez séduite, mon enfant, séduite. Dieu sait que ce n'est pas facile de me séduire. Trop de gens, voyez-vous, m'ont déçue. Mais quand j'ai découvert votre petit magasin, arrangé avec tant de goût, un goût si sûr, ma chère, eh bien, j'ai été conquise. Quand je suis conquise, moi, je ne me défends plus. Les femmes comme vous, voyez-vous, mon enfant, ne courent pas les rues. Oh! dit Françoise, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ah, c'est très bien. Voilà comme j'aime entendre parler. Naturellement, il faut toujours apprendre. Mais combien le savent? Le savoir, tout est là. Et l'avouer, ah, l'avouer. Je vous en prie, madame, je ne fais rien que de très ordinaire, j'en ai peur. Vous l'entendez? Voyez-vous comme j'avais raison. Rose parut blessée ou prudente. Je n'ai jamais dit le contraire, mon ami. Je trouve, moi aussi, madame, bien méritante. Michou parut, maman lui fit signe de venir saluer ses invités. Le signe déplut à Michou. C'est de ces choses qu'on n'oublie pas. Il avait laissé la porte entr'ouverte. Maman ne laissa plus de regarder la ligne d'eau. Maman ne cessa plus de regarder la ligne d'ombre. Ce fut alors, son attention se détournant de Françoise, les bizarreries des gens frappent surtout lorsqu'on les observe moins, qu'elle revint sur sa première impression. Même, elle commença à se demander si la jeune femme était en tout point admirable. Finalement, je n'aime pas son sourire, de la comédie. Il est clair que son maintien, son aisance plutôt, de ton et de maintien n'est pas inné. Elle a lutté pour l'acquérir. En soi, ce pourrait être une bonne chose, un mérite, comme dit Rose. Mais c'est aussi une faille dans l'harmonie de son comportement. Un manque de naturel au second degré. En allant un peu plus loin, on pourrait mettre en doute que son goût soit si sûr, qu'il ne soit pas lui-même une acquisition. Et de fraîche date, à la merci dans ce cas, d'une inattention, d'une erreur. Maman s'entraîna donc à observer Françoise avec les yeux de quelqu'un qui ne se veut pas dupe. En vain, cependant, elle en fut ulcérée. Une seule femme jusqu'alors lui avait donné cette sensation de perfection. Irène. Elle s'étonna de penser à Irène. Elle s'irritait quand la porte s'ouvrit à nouveau. Jean dit: Pardonne-moi, je ne savais pas que tu avais tes amis. Mais voyons, tu n'es pas de trop. Déjà, pourtant, elle se repentait d'avoir invité cette femme, de l'avoir invitée afin que Jean la connût. Heureusement, les femmes à qui je le présente, il ne les regarde pas. Vaine consolation, celle-là, il la regardait avec intensité depuis que maman avait prononcé son nom. Françoise Galard, la femme de Michel? Il y a bien des Galards dans le monde. Jean, néanmoins, ne douta pas. Son métier lui avait appris à croire aux coïncidences, ces miracles à bon marché, mais surtout le commerce des femmes. Sitôt qu'une femme était en question, il en attendait de l'inattendu. Elle décevait rarement son attente. Il ne se rappela pas ensuite le premier mot qu'elle lui avait dit. Ce ne fut pas, du moins, une de ces phrases banales, quel métier passionnant que le vôtre, etc., par lesquelles, d'ordinaire, les filles l'accueillaient. Il n'écoutait pas ce qu'elle lui disait, parce qu'il lui semblait entendre ce qu'elle ne disait pas. Connaître les pensées de l'autre, à tout instant les vivre. Il prétendait ce pouvoir commun à beaucoup d'hommes, mais que les hommes ne savent pas qu'ils le détiennent.
Le monde féminin est si étroit, il est si simple d'en faire le tour.
Après 10 minutes de conversation avec une fille, il pouvait raconter sa vie. Il connaissait les angoisses de la fille, ses peines et ses projets d'avenir. À peine lui en parlait-il, elle acquiesçait, stupéfaite. Regardant Françoise ainsi, la pensée tout à coup lui vint, bizarre, qu'elle n'aimait pas les aviateurs.
Pauvre Michel!
La dernière réflexion à se faire, d'autant plus que cette femme n'était pas mal.
Bon, avouons-le, elle est jolie.
Il s'assit tout à côté d'elle. Les ayant observés, maman tourna la tête vers Rose et se mit à expliquer pourquoi les chaises du salon devraient être recouvertes en brocart grenat.
« Je comprends qu'on aime le cheval, »
dit Jean. Saisi dans le bref éclair de la surprise, la femme n'était plus jolie, mais belle.
« Comment ? » ?»«
N'aimez-vous pas les promenades matinales à cheval dans la campagne ? » ?»«
Vous m'avez rencontré ?»«
Jamais, » dit-il sérieusement. « Je le regrette. »
La surprise l'avait grandi, étoffée. La perplexité brusquement en fit une toute jeune fille inquiète.
« Je ne comprends pas. »
Il aima qu'elle eût reconnu son désarroi. Mais cet aveu le désarmait. Avec une autre, il eût poussé plus loin la plaisanterie, joué aux sorciers, aux mages. Son peu d'envie de jouer l'étonna.
« Nous ne sommes pas tout à fait des inconnus l'un pour l'autre. »«
Je sais, Michel m'a parlé de vous. »
Elle prétend ne pas comprendre, mais elle comprend trop vite.
Il en fut irrité, chercha des raisons de l'être. Non seulement elle connaît ma légende, mais elle me connaît moi, c'est pour me rencontrer qu'elle s'est fait inviter. Que cherche-t-elle? Tout cela ressemblait trop à une conjuration. Michel, maman, on veut me la fiche dans les pattes. La femme le laissait réfléchir. Elle ne le regardait même plus. Tendue, elle s'appliquait à suivre la conversation entre maman et Rose dans l'espoir, pensa-t-il ironiquement, d'y placer un mot.
Ainsi, c'est là son jeu. Très bien, ma petite.
Pour de bon offensé, il se leva. Maman s'interrompit au milieu d'une phrase.
Tu ne pars pas déjà? Tu n'as pas pris ton thé?
Michou se tenait sur le bord de sa chaise, de l'autre côté du guéridon. Ses yeux s'ouvraient tout grands, mais il ne voyait personne.
« Michou ! » cria Jean. « Où es-tu ? »
Les yeux de l'enfant perdirent leur fixité. Une rougeur parut à sa pommette.
« Je suis là, pas !»«
Mais tu sais bien, maman, que je n'aime pas le thé !»
dit Jean. Debout, il les écrasait tous quatre, les femmes et l'enfant. Parce qu'elle s'était assise sur un fauteuil très bas, les jambes de la femme semblaient collées l'une à l'autre, des jambes très belles. Sa main gauche, posée sur l'accoudoir du fauteuil, elle tenait sa tasse de la main droite, de belles mains longues. Elle ne paraissait ni impatiente, ni crispée. Elle avait regardé Jean se lever. Maintenant, de nouveau, elle ne le regardait plus.
« Qu'est-ce que cette fille ? Est-ce que vraiment je n'existe pas pour elle ? »
Cette pensée lui déplaisait.
Si pourtant Michel disait vrai, si c'était une femme froide.
Mais il n'y croyait pas non plus, il n'en avait jamais rencontré une seule.
Une femme froide, ce n'est jamais qu'un mari impuissant.
Il pensa que s'il partait tout de suite, il se pourrait qu'il ne se revoie plus, à moins qu'il n'acceptât l'invitation de Michel.
Pour rien au monde.
Mécontent de cette crainte de ne plus la revoir, il accepta de s'avouer
« Tant que je ne l'aurai pas prise, sa pensée me tourmentera. »
Il n'aimait pas jouer à cache-cache avec lui-même. Lucide, il était satisfait. Il s'accorda un petit quart d'heure de grâce. Sortant de sa poche l'étui en or qu'il tenait de maman, il demanda
« Vous permettez, mesdames, que je fume ?»
Mais il n'aurait pas dû rester. Restant, il aurait dû comprendre qu'avec cette femme, il n'avait aucune chance. Quelques minutes plus tard, en effet, elle se leva pour remplir les devoirs de la jeune fille de la maison. Maman lui permit de servir à nouveau le thé. Jean avait proclamé son dégoût de ce breuvage. Elle ne se donna pas la peine de lui en proposer. Elle allait et venait autour de lui, comme si vraiment il avait été invisible. Il lui proposa une cigarette. Elle ne fumait que des blondes. S'il lui parlait, elle l'écoutait avec l'inattention polie de quelqu'un qui attend la fin de votre discours. Il se sentait non seulement loin d'elle, mais comme annulé. « Elle est jamais là, qu'est-ce que tu veux ?» Ainsi c'était ça. Malgré tout, il ne le croyait pas encore. Rarement une femme lui avait donné une impression de présence charnelle aussi oppressante, mais l'esprit était ailleurs. Une femme, qui ce n'est pas ce qu'est l'amour, une femme, oui, sans doute, qui n'a jamais joui, rien ne le tentait davantage. Et justement, il était disponible. Deux rencontres à poursuivre, et une liaison de 3 semaines à liquider. Mentalement, il jouait à pile ou face le destin de Françoise. Je m'en désintéresse, ou bien... En fin de compte, malgré l'insipidité du bavardage, il demeura en compagnie des femmes jusqu'à ce que Françoise prît congé. Assez platement alors, et furieux d'en avoir conscience, il s'offrit à l'accompagner. Mais elle dit qu'elle rejoignait son mari chez des amis et que sa voiture, une Simca, était devant la porte. Réconciliée avec la jeune femme, maman se permit un sourire. Fin de la première partie qui était intitulée Mars. Deuxième partie, Avril. Il y eut un grand choc suivi d'étincelles qui s'éparpillèrent, milliers de lucioles soudain apparues dans le ciel d'avril. Michou frissonna d'allégresse. Dans ses rêves, les choses venaient ainsi et de même disparaissaient sans prévenir. Mais dans les rêves seuls, autrefois. Maintenant, les murs étaient ouverts. Depuis combien d'heures, combien de mois? Le temps n'existe pas dans les rêves. Avant ces étincelles dansantes dans le ciel rouge et bleu comme un pavois, il y avait eu la belle fuite noire des voitures sur la route. Elles se suivaient de si près qu'on aurait dit un reptile brillant glissant sur l'asphalte brillant vers le tunnel illuminé. Et avant le serpent, il y avait eu le rideau de larmes mobile et transparent auquel il avait bu, et plus tôt encore les yeux bleus de la fille, la saveur douce, bien que lourde, du croissant dans le café amer, et le coup de fouet du vent sur son visage et sur ses mains, et la longue quiétude de la nuit sans sommeil, car, quand la vie est devenue le rêve, pourquoi dormir ? Ou bien, tout datait de la seconde précédente et de l'explosion. Personne n'était apparu sur les seuils des 4 maisons au bord de la route, une sorte de hameau, l'auberge au bout. Michou se sut immortel. Il sut aussi qu'avant peu, il s'en inquiéterait, craindrait de s'en inquiéter avant peu. C'était ainsi souvent, lorsqu'au milieu du rêve et de la joie, il entendait papa ou maman lui crier « Michou, eh bien, où es-tu ?» Alors, il fallait vite se pencher sur son livre, plein de phrases incompréhensibles, ou écouter ce que les gens avaient à dire et qui étaient toujours sans intérêt. Il le savait, mais ne parvenait pas à craindre de s'inquiéter avant peu. Peut-être enfin, s'était-il réellement passé quelque chose? Contre quoi, il ne peut rien. Les vieilles légendes ne sont pas des histoires.
ils existent. Le bon génie qui protège des périls, des chauves-souris, la baguette de la fée, l'aile de l'ange gardien. Peut-être choisit-on quelqu'un une fois par jour ou une fois tous les 100 ans pour que ce quelqu'un n'ait pas peur et sache que ça vaut le coup de vivre. Riant de sa croyance, il ne pouvait s'empêcher de croire. Ça ne ressemblait pas à l'attente d'une soirée au cinéma ou du livre qu'on vous a promis. On n'attend pas ce qui est là, et tout vraiment vivait en lui, depuis qu'il avait ressenti le choc et vu les étincelles. Ou bien une heure, un mois plus tôt. C'était peut-être à cause des feuilles vertes et du ciel bleu. Son corps lui suffisait, mais « Ça va finir, ce bonheur va finir, tout va s'écrouler !» Incroyable de le savoir, d'en être sûr, et de sourire de cette menace-là comme du reste. Il n'était pas fatigué lorsqu'il pénétra dans l'auberge ouverte sur la route. Mais peut-être 2 ou 3 pas de plus lui aurait-il fait ressentir la fatigue. Il n'avait pas soif lorsqu'il demanda un jus de fruits, mais le verre en main, il eut soif. Il but une gorgée, reposa son verre. Il y avait sur la terrasse un couple vieux, aux gestes lents, et 2 jeunes filles à une autre table qui riaient à tour de rôle, un rire léger et doux, un rire vif, acide, sans raison. Tournant la tête, il vit, derrière le bar en acajou, une femme qui le regardait. La patronne, sans doute. Elle ne portait pas de tablier, mais une robe toute noire, triste, en velours, qui faisait ressortir la jeunesse du visage. Ses cheveux étaient relevés sur ses tempes et son fard discret. Il devait sourire, car elle lui sourit. Il ne dit rien, cependant, elle non plus. Ils se regardèrent, puis elle sortit par une porte derrière le bar. Le garçon, en veste blanche sur un pantalon noir, revint de la terrasse. Il avait une bonne tête de vieux cabot spécialisé dans les rôles de roi félon. Sans raison, il se pencha vers Michou et promena son chiffon sur la table. « Belle journée, » dit-il pour un début d'avril. « Oui, » dit Michou. Un chaleureux sourire triste fendit la bouche mince du vieil acteur. « Un beau temps pour des vacances. « Oui, » dit Michou. Les vacances. C'était bête, mais il venait de penser que ce mot-là, désormais non plus, n'aurait plus de sens pour lui. Un instant, il regretta la joie des premières journées de vacances. Pourtant, elle était pauvre et menacée à côté de l'autre joie. Il acheva de boire son orangeade, lui trouvant le même goût, toujours, la même saveur inimitable, ou plutôt toujours la même inimitable découverte d'une saveur chaque fois différente. Il se leva et dit « Je vous dois combien ?»« Mais c'est payé, jeune homme !» répondit le garçon. Michou sourit. Il n'avait pas payé. D'ailleurs, il n'avait pas d'argent. Il était habitué à ça aussi, déjà. La porte derrière le bar se rouvrit. La femme le regardait du seuil de la cuisine. Son visage était triste et son regard reprochait. « Je reviendrai, » dit Michou.
« Je vous en prie, mon vieux, » dit Jean à Villamont. « Je vous en prie, je connais le boulot. »
Il était de mauvaise humeur. Pourtant, il faisait beau, un vrai temps de printemps. Un beau temps pour voler. Ce devait être à cause de ça.
Si je volais, je ne penserais pas de la sorte à cette femme. Mais un pilote d'essai ne vole jamais plus.
La formule est excessive, expression de son mécontentement et de sa gêne parce qu'il pense trop à cette femme. 15 vols dans le mois ne sont pas rares, 12 la bonne moyenne.
mais le moindre d'entre eux doit être précédé, suivi d'écriture. De cela, les pilotes ne se vendent pas plus que des interminables journées passées sur l'échelle, cependant que le chef d'équipe adoucit une commande. Dans 5 minutes, mon vieux. Mais les 5 minutes passent, et 50 autres, jusqu'au moment où il devient évident qu'on ne volera pas aujourd'hui. Jean écrit. Changement de structure, prévoir, bavette circulaire à l'arrière du fuselage. Et il pense, après tout, j'ai tenu 8 jours. Une semaine de folie. Pas une soirée à la maison, 3 femmes à la fois sur les bras. Simone n'était pas mal. Dommage qu'elle soit si bête. Falloir surveiller ça, pense-t-il aussi. Je me crève. Villamon va et vient dans le cagibier étroit. Il parle sans arrêt. Jean n'entend pas ce qu'il dit. Jean volera-t-il demain? Il préférerait que ce soit aujourd'hui. Demain, le ciel ne le permettra peut-être pas. D'une certaine façon, cela dépend de lui. Si le briefing est prêt, ce n'est pas Villamon qui s'opposera au vol. Quant au grand patron, il en sera ravi. Il est toujours content lorsqu'on paie de sa personne. Mieux vaut ne pas penser au grand patron aujourd'hui, à ses petits yeux malins au-dessus du nez crochu lorsqu'il dit « Si je pouvais recommencer mon existence, je serais pilote. Oui, mes enfants, je vous envie. » Si sincère dans l'instant qu'il en oublie ses quelques millions annuels d'argent de poche. Mieux vaut ne penser à rien qu'à ce briefing, qu'à préparer le prochain vol, puisqu'il ne s'agit encore une fois que d'étudier les réactions imprévisibles du prototype en essai selon l'altitude de vol, la vitesse et la charge.